correcteurs d'erreur en fait une vie indépendante de la cryptographie. Donc, les codes correcteurs d'erreur, ils ont été inventés par Hamming donc, dans les années 40. Hein. Donc, l'idée, c'était que les premiers ordinateurs, il y avait donc un bit, hein, c'est ce qui permettait 0 ou 1, c'est ce qu'on a partout dans nos communications maintenant. Donc, à l'époque, sur les ordinateurs, donc, dans les années 40, hein, donc, au Bell Labs, un bit, c'était une ampoule. Une ampoule soit allumée, soit elle était éteinte. Le problème, c'est qu'il y a des fois, il rentrait chez lui et il revenait le week-end là, et les ampoules étaient grillées. Donc du coup, il perdait le résultat de ses calculs. Et donc il a inventé donc la notion de code correcteur d'erreur. Donc l'idée, c'est que quand j'envoie l'information, si jamais il y a une information qui est perdue parce que bah il y a eu un bruit ou il y a quelque chose qui a sauté, bah du coup ça, on va rajouter un peu de redondance à l'information pour essayer de la retrouver. Et donc là-dessus, il y a Shannon qui est arrivé dans les années 48 à proposer un article qui était une théorie mathématique de la théorie de l'information et qui justement a permis de poser les bases de ce qui est maintenant utilisé partout dans tout ce qui est communication. Et voilà, donc dès que deux objets communiquent ensemble, derrière il y a des codes correcteurs d'erreur et il y a la théorie de Shannon. Mais donc ça, c'est une vie indépendante de ça. Alors pour la cryptographie, donc la cryptographie a une histoire très ancienne. Et dans les années 70, on a inventé la crypto-clé publique, qui est la crypto-clé publique que tout le monde utilise. Il se trouve que quelques années plus tard, en 1994, il y a quelqu'un qui s'appelle Peter Shor qui a proposé un algorithme, dit un algorithme quantique, qui, si on avait un ordinateur quantique suffisamment puissant, pourrait casser tous les systèmes cryptographiques qu'on utilise actuellement. Donc c'est 94, bon, c'était il y a longtemps, mais donc ça met vraiment du temps à se développer. Alors pendant longtemps, la menace a été prise pas très au sérieux, et donc depuis quelques années, notamment avec le développement là de tout ce qui est le côté quantique par des grands groupes comme donc Google, IBM, enfin tous les GAFA, il se trouve que la menace a été prise au sérieux. Donc en 2015, la NSA a fait un communiqué dans lequel ils expliquaient que maintenant il serait temps de changer un peu les outils cryptographiques qu'on avait pour passer à des outils cryptographiques dits post-quantiques. Donc post-quantique, en fait, on devrait dire résistant au quantique. Et parmi ces outils-là, alors il n'y en a pas 10 000 hein, des outils comme ça, parmi ces outils-là, il y a les outils de cryptographie, donc des schémas de cryptographie basés sur les codes correcteurs d'erreur. Alors, pendant des années, on sait, nous, on a travaillé sur ces choses-là qui n'étaient pas du tout mainstream. Et du jour au lendemain, en fait, ces choses-là qui étaient un peu à l'écart, un peu exotiques, sont devenues très importantes et devenues vraiment mainstream. Et tous les gens ont vu le potentiel qui existait, mais que la NSA a rendu vraiment possible en disant qu'il fallait passer à ça. La cryptographie donc sur les codes est devenue mainstream effectivement il y a quelques années. Alors maintenant la cryptographie elle est devenue donc grand public ou mainstream donc depuis plus longtemps puisque historiquement la cryptographie c'est vraiment pour les militaires et dans les années 70 les gens ont développé des outils dans un cadre plus grand public. Donc par exemple d'abord c'était les banques ou les grands groupes comme IBM pour protéger la confidentialité, donc à l'intérieur de la banque, pas nécessairement entre les militaires. Et après, il y a eu la cryptographie grand public dans les années 70 qui a été développée et qui avait des usages un peu dans la vie courante. De la même façon que les codes correcteurs d'erreur, dès qu'il y a des communications, dès qu'on envoie des données, sont présents, la cryptographie va être présente dès qu'on a une notion de confidentialité. Donc, par exemple, les cas classiques d'utilisation, c'est quand vous voulez payer sur Internet, le fait qu'on ait confiance dans le monde numérique et le fait qu'on ait confiance dans les paiements et le fait de payer sur Internet, c'est quand même important. Ça a quand même permis vraiment le développement du commerce en ligne. Mais les outils qui sont derrière, c'est de la cryptographie qui permet de dire « Ok, j'ai confiance. » Alors, il peut toujours y avoir des biais, de temps en temps, il peut y avoir des usurpations d'identité. Mais si on fait les choses bien, c'est sécurisé. La cryptographie est un peu la pierre angulaire de la confiance dans la société numérique. Imaginez que quelqu'un veuille rentrer dans une maison. Donc, dans la maison, il y a une porte et il y a des fenêtres, il y a un toit, etc. La cryptographie, ça va être de dire, voilà, la porte d'entrée, je la blinde. C'est-à-dire que si quelqu'un veut essayer de rentrer par la porte d'entrée et qu'il n'a pas les clés, ça va vraiment être compliqué. Par contre, si pour entrer dans ma maison, j'ai laissé des fenêtres ouvertes, on pourra quand même rentrer. Donc, la sécurité informatique, globalement, c'est le fait d'empêcher que quelqu'un rentre dans une maison. Par contre, la cryptographie dans tout ça, c'est le fait de dire, sur ce passage-là en particulier, là, je mets quelque chose qui est très dur à passer. A priori, vous ne passerez pas si vous passez par là. D'accord? Donc, la cybersécurité, c'est quelque chose qui est large, mais qui ne se réduit pas à la cryptographie. Donc, la cryptographie, c'est très important, puisque s'il n'y a pas ça, on ne peut pas sécuriser un passage donné. Maintenant, il y a toute une des pans donc de recherche ou de travail qui consiste vraiment à faire en sorte aussi que votre maison n'ait pas de failles. Et souvent, quand on parlait de failles en cybersécurité, c'est des choses comme ça. C'est que dans le système, il y a une fenêtre qui a été, on a oublié de laisser la fenêtre ouverte, et du coup, quelqu'un a réussi à passer par la fenêtre. Donc, on va publier quelque chose. Attention, il y a un problème ici, hop, donc on ferme la fenêtre pour empêcher que les gens rentrent, quoi. Après, moi, dans mon domaine spécifique, les meilleurs du monde, ils sont en France, quoi. Donc, du coup, la plupart des meilleurs sont en France. Donc, on fait pas mal de séminaires ou à distance actuellement, ou des séminaires physiques où on va à Paris, on passe toute la journée à travailler et on repart. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai trouvé vraiment très intéressant, quoi. Sur la cryptographie en général, il y en a. La France fait partie des grands pays, hein. Il y a les États-Unis, il y a Israël, il y a la France. Et bon, voilà, la France fait vraiment partie des grands pays, puisque depuis des années, en cryptographie, la France a investi dans le sujet. Par contre, dans la cryptographie post-quantique, qui est basée sur les codes correcteurs d'erreur, c'est quelque chose qui a été initié donc aux États-Unis à la fin des années 70, mais qui n'a pas été très très développé. Et dans les années 90, il y a eu une équipe en France qui s'est vraiment intéressée au sujet. Et du coup, après, ça a fait des petits, ça a essaimé. Donc, du coup, maintenant, on a vraiment en France une école de cryptographie post-quantique basée sur les codes correcteurs d'erreur, qui est vraiment très, très performante et probablement la meilleure du monde, oui.